Dans ce deuxième épisode, Emmanuel nous présente sa parcelle, puis on passe dans les locaux des trempages et dans sa grange de séchage. Vous allez aussi entendre une captation enregistrée le 11 novembre 2023 dans le cadre du premier jour d'un atelier vannerie.
Donc là, j'ai planté il y a 6 ans, il y a 8 rangs, donc 8 rangs d'osier. Avec 4 variétés différentes. On a du Fragilis rouge belge, on a du Salix, on a de l'Alba vitellina, de la Triandra petite grisette et une autre variété qui s'appelle la Gravanche qui dure sur 2 ans. C'est pour ça qu'on les voit avec les chatons là et les feuilles. Ce que ça s'appelle, c'est pour faire de la perchette, pour avoir des osiers un peu grands et costauds pour des structures. Entre les rangs, on a l'écartement de l'outil du cheval, donc à peu près 70 à 80 cm. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est le tas de broyat, hein, ce qu'on voit là sur le côté. Parce qu'après, les écarts de tri, donc tout ce qu'on enlève après tri, on les broie. Et on en fait, on l'utilise pour faire, là, on a fait des lasagnes pour du compost. Et sinon, ça peut servir en couverture de sol, c'est très intéressant.
Donc, il n'y a pas de déchets dans votre activité?
Aucun déchet. Et d'ailleurs, ça m'a posé quelques soucis par rapport aux redevances des ordures ménagères. J'ai été tenue de payer mes redevances alors que mon activité ne génère aucun déchet. Voilà, mais je n'ai pas eu gain de cause parce que, voilà, soi-disant, il faut faire comme tout le monde, mais c'est pas très cohérent. Voilà, donc j'utilise aucune énergie non plus, tout est fait à la main. À part de temps en temps mon véhicule donc pour aller chercher l'osier, mais sinon... je n'utilise aucune autre énergie. Sur l'année, il y a au moins 5 mois qui sont dévolus à la culture de l'osier. Donc, entre la récolte, c'est un travail difficile parce que c'est un travail d'hiver. Donc, moi, là, ça fait 4 mois que je vis dans le froid. Bon, là, aujourd'hui, dans la grange, il fait un peu meilleur. Mais en février, il devait faire 2, voire 0 degré, quoi. Après, voilà. Donc, pour moi, ça vraiment, c'est très important, cette saisonnalité. Entre la récolte, le tri et après le temps de transformation et de transmission. Voilà, j'ai cette pièce-là sur mon vieux pétrin où j'ai quelques pièces de vannerie. Et en ce moment, je ne suis absolument pas en production puisque je suis tout entière, mon temps est consacré au tri de l'osier. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres matières que l'osier qui sont la clématite. Clématite est une liane qu'on peut récupérer dans les sous-bois, où on fait ce qu'on appelle, avec lequel on fait ce qu'on appelle la vannerie aléatoire. C'est de la récolte de sauvage pour les besoins de la production ou des stages. Après, je vais la faire bouillir dans une grosse marmite et je vais lui enlever la peau. Et on fait des rouleaux, c'est notre rotin en fait. Mais le rotin, il est importé, alors que nous, on a tout ce qu'il faut en fait. Faut savoir, c'est que la vannerie aujourd'hui, il y a une grande mode sur la vannerie sauvage, mais c'est ni plus ni moins que la vannerie traditionnelle rurale, c'est-à-dire qu'on va tresser ce qu'on a autour de chez nous. Ici, c'est surtout le noisetier. La vannerie du Vercors, c'est surtout le noisetier. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de noisetiers. Donc, c'était un travail d'homme l'hiver, là où on avait plus de temps entre guillemets, parce que les animaux étaient à l'intérieur, et on fabriquait les objets du quotidien. Pour les récoltes, pour les différents travaux. Donc là, on a le bac de trempage. C'est là où je mets à tremper l'osier sec. Voilà, là, il trempe depuis déjà 9 jours. Et je vais l'enlever de l'eau. On est quel jour? On est jeudi. Donc, demain. Voilà, et ça, c'est Doudouk, c'est notre chat. Et après, je le rince. Et je le laisse essorer la nuit et on va l'utiliser pour le stage de ce week-end. On va faire des paniers sur arceaux, qui est pour moi la vannerie paysanne, quoi. Là, il y a donc les restes des routoirs, ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'osier vivant. Donc ça y est, la saison est terminée. Mais c'est ce qui, une fois la récolte faite, on a trié des brins, on les a comptés et on les a mis dans 5 cm d'eau pour favoriser la reprise. Voilà. Et une fois que ça s'est terminé, après, on enlève les routoirs. Ça, c'est une petite dépanne, ça s'appelle une étuveuse, qui est bricolée maison, pour pouvoir mettre l'osier. En fait, il est dans la vapeur d'eau et ça permet de le préparer plus rapidement. Parce que l'osier trempé dans l'eau froide, c'est 12 jours quand même. C'est-à-dire qu'il faut être organisé pour dire d'avoir tout le temps du travail ou quand j'ai un stage, c'est d'anticiper avant. De l'osier, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bon, ça c'est la clématite du coup qui est épluchée. Moi, je travaille essentiellement l'osier brut, c'est-à-dire avec son écorce. C'est pour ça qu'on peut conserver toutes les couleurs. Mais il y a aussi de l'osier qu'on appelle l'osier blanc, que je vais vous montrer un peu plus loin, qui lui est écorcé. Et ben l'osier, une fois qu'il est trié par longueur, par variété, et mis en botte, on le met à sécher à plat, dans les granges un peu plus loin. Il faut que ça soit un lieu dans le noir, enfin à l'ombre en tout cas, de la lumière et du soleil, et dans un endroit ventilé. Un peu comme les noix, on va dire. Sauf que l'osier, on ne le brasse pas, alors que les noix, on doit les brasser. Et il met 5 mois à sécher. Bon, après, des étés comme on a eu l'année dernière, ça a été beaucoup plus rapide, malheureusement. Et là, il y a beaucoup de questionnements qui se posent, justement, en parlant de ça, par rapport à la culture d'osier, qui demande quand même un peu d'humidité, même si l'osier, à l'état naturel, il va être les pieds dans l'eau, au bord des cours d'eau. Mais en culture, il ne faut pas trop d'eau. Parce que sinon, il a tendance à avoir une moelle assez grosse et bah, attraper des maladies, tout simplement. Hein.
Et donc, est-ce que c'est une culture qui est amenée à résister au changement climatique que nous vivons sur une durée un peu plus longue? Je ne vous demande pas d'avoir la boule de cristal pour regarder dans l'avenir, mais...
Tout dépend de si on voit ça dans des termes de production. C'est toujours pareil, hein, dans toute, justement, toute production, si on a des exigences de quantité, parce que bien sûr, il faut bien gagner sa vie. Mais ce que j'ai remarqué, moi, cette année, c'est que ça a beaucoup moins souffert ici en montagne qu'en plaine, au niveau de la sécheresse. Mais c'est sûr qu'il souffre. Je remarque des choses sur l'état de l'osier par rapport au changement climatique. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des phénomènes. Bon, moi, je n'ai pas énormément d'expérience. Je me suis installée en 2007, donc voilà. Mais il se passe des phénomènes climatiques qui n'arrivaient pas avant. Par exemple, avant, parce que l'ennemi numéro un de l'osier, après les ragondins, qui sont une espèce de rat qui vivent dans l'eau, mais qui n'existent pas ici. Hein. Il faut monter plus au nord, dans la Loire et ailleurs. C'est la grêle. Donc, avant, on pouvait prévoir des événements de grêle. On les craignait au niveau de l'été. Maintenant, aujourd'hui, ça peut être n'importe quand, même en plein hiver. Bon, en plein hiver, c'est moins grave, parce que l'osier est plus petit. Et soit il a été coupé en fin d'année, soit en début d'hiver. Mais les orages de grêle au niveau de l'été, c'est embêtant parce que l'osier, il est petit, il est tout tendre, fragile. Mais ça, c'est des événements maintenant qui surviennent n'importe quand. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer très clairement. Moi, j'arrose pas l'osier, donc j'utilise pas d'eau. Après, pour une plantation, si on utilise de l'eau pour l'osier vivant, quand on fait des structures, et là, effectivement, on a besoin d'eau. Et là, on est prudent et on a des par rapport aux gens qui veulent construire ou fabriquer des structures en vivant, et ben c'est sûr que là, ça nécessite de l'eau. Et si on rate le coche, si on a à nouveau un été comme là, l'osier survivra pas quoi.
Bonjour, je suis Maxime, j'ai accompagné Sarah à Saint-Julien à Vercors dans son reportage et j'ai poussé ma curiosité et posé aussi quelques questions.
Quel public de stagiaires accueillez-vous? Quelle tranche d'âge et de quel métier ils sortent bien avant?
J'ai la chance d'avoir un public très très divers. Il y a pas mal de gens qui sont en questionnement sur leur vie. Voire qui sont en reconversion professionnelle, mais ça c'est un petit peu plus marginal. Mais en tout cas, pour les stages de 2 jours, qu'on appelle les stages loisirs, c'est très varié. Il y a plus en plus de gens qui viennent, je les appelle mes cadeaux, parce que c'est leur cadeau d'anniversaire ou de départ à la retraite. Et Donc, et au niveau des âges, franchement, c'est très divers aussi. Dans l'oserie du possible, on a un agrément de formation. Donc, on peut accueillir des gens avec leur droit à formation. Donc, j'ai aussi des gens qui viennent du monde agricole. Là, ce week-end, j'en ai deux, par exemple, et qui viennent apprendre à tresser pour éventuellement fabriquer leur propre panier ou leur vannerie d'exposition pour leur stand. Et donc, eux viennent avec leur droit à formation. Donc, le public est vraiment très varié. Et c'est ça qui fait la richesse des stages, d'ailleurs. Autant, voilà, après, au niveau des jeunes, il y a parfois des jeunes jusqu'à... moi, je demande à ce qu'ils aient quand même suffisamment de force dans les doigts. Donc, en général, ça peut être plutôt des adolescents. Et ça arrive que je fasse des ateliers en direction des enfants. Mais ça, c'est encore autre chose, parce que je vais vraiment choisir l'osier que je vais utiliser et je vais préparer en amont pour que ce ne soit pas trop technique. C'est vraiment une histoire de patience et de concentration. Souvent, les gens sont très, très fatigués au bout de la première journée, même s'ils sont en paix, en général. C'est comme une méditation, la vannerie. Mais c'est vrai que pour les jeunes enfants, c'est ça. Il ne faut pas que ça dure très longtemps. Ou alors, ils travaillent un petit peu, puis après, ils vont faire autre chose, ils reviennent. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est beaucoup de patience, oui.
Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés dans votre métier de vannerie?
Ça, c'est une question énorme. Pour la vente des vanneries, notamment, il y a un public de connaisseurs et qui reconnaissent le travail fait main. Mais après, on peut pas lutter contre les vanneries qui viennent d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique, qui coûtent rien. Mais c'est parce qu'au bout du compte, au bout de la chaîne, il y a des vanniers qui sont magnifiques, qui travaillent super bien. Mais c'est notre système économique qui va pas. C'est-à-dire que nous, un panier moyen, on va le vendre à 60 euros. Et moi, ça m'arrive de trouver des vanneries qui viennent du Burkina ou je ne sais pas quel autre pays de l'Afrique qui sont vendues à 15 euros. Donc là, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, les gens, s'ils ne réfléchissent pas très longtemps parce qu'ils peuvent le comprendre, ils vont se dire oh « ben non, moi, je ne vais pas acheter un panier à 60 euros ». Mais je trouve que ça a tendance à beaucoup évoluer. Quoi, qu'on fait la différence entre un panier qui est revendu, donc c'est des gens qui revendent, qui achètent, qui revendent, et un panier qui est fait par un artisan. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un autre regard quand même qui vient, sans parler évidemment des gens qui commandent, et là où c'est très agréable de travailler avec une intention. Donc, c'est tout un ensemble de choses, quoi. Mais c'est vrai que notre système économique, il cloche, quoi, par rapport aux anciens savoir-faire. Mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau des gens qui commencent à vraiment reconnaître. C'est sûr qu'on ne compte pas notre temps de travail.
Parlant de renouveau, selon vous, quel avenir pour le métier de vannerier? Êtes-vous prêt à donner des formations de plus longue durée pour des jeunes ou des personnes en reconversion professionnelle, comme vous l'avez dit, qui s'intéresseraient au métier de vannerie?
Ben, c'est ce qu'on fait déjà, en fait. On prend des gens sur des stages longue durée qui vont vraiment s'intégrer à une formation professionnelle à long cours, à long terme, et on les accompagne. Et c'est comme pour la culture d'osier aussi. J'ai eu, ça arrivait déjà trois fois, et je pense que ça arrivera à nouveau, des gens que je vais accompagner jusqu'à leur installation en osiericulture. Voilà.
Alors du coup, le métier de vannerie promet de belles avenirs.
Oui, moi je pense que les métiers passion, oui, ils ont plein d'avenir. Parce que c'est ça aussi qui fera que les gens seront mieux dans leur peau. Et donc pour moi, oui, c'est assez hyper important, ouais, de faire ce qu'on aime avec passion.
11 novembre 2023.
Comment s'appelle cette étape?
La torche.
La torche. Ah, la torche.
Cordon de base qui relie le fond du fond.
Troisième étape.
Le prof de vannerie, il a préparé son travail. Sauf si tu travailles en sauvage. Enfin, c'est clair que, mais bon, ouais, c'est autre chose.
Sinon, avant de commencer quoi, c'est ça, tu prépares.
Ouais, tu prépares. C'est l'avantage d'avoir de l'osier cultivé, trié.
Ouais.
Ou alors tu fais de la vannerie sauvage, mais c'est autre chose. C'est pas, tu vas faire un panier sur arceau, ça n'a pas d'importance. Ta longueur de bras.
C'est pas facile ce qu'on fait quand même.
Non.
On a du lait,
on a du
lait. Doucement. Vraiment.
Ben moi, je suis assez contente, encore.
Ah, c'est agréable à entendre.
Ouais.
Arrêtez, j'ai dit que je le dirais toutes les deux heures. Elle a lâché le rythme un petit peu. Je l'ai un peu lâché, ouais, parce que j'avais un peu du mal avec mes doigts, mais là, ça va mieux.
Merci et au revoir.